être à notre tour, faut juste qu'on soit prêt. Puis je pense que les Gen Z, on n'est pas prêt. Je pense qu'on n'est pas prêt de se faire rire de nous parce que on était content de le faire quand on était jeune.
Mais c'est tout le temps ça. Hein. C'est toujours le fun à rire des générations.
Kiquer ses autres, c'est drôle en crise, mais quand c'est nous qui se font kiquer dessus.
Moi, c'est maintenant, j'ai vu des gens, tu sais, vraiment dire des trucs sur la Gen Alpha. Là.
Ouais,
qu'on s'est fait dire nous-mêmes il y a 10 ans. Là.
Ouais.
Des trucs de comme genre, ah, c'est parce qu'ils sont lâches puis ils veulent pas travailler.
Ouais,
comme,
ouais.
Je vais être avec toi, j'ai pas le
temps. Mais le monde, ils veulent plus travailler, puis ça, c'est depuis 1900. Depuis la révolution industrielle, le monde veut pas travailler. C'est quoi cette affaire-là? Voyons donc, si, vas-y, dans la factory. Ils veulent pas, ça fait trop de bruit travailler. C'est fatigant pour les bras.
Mais c'est genre, ouais, c'est vrai, je veux pas travailler. C'est comme, c'est vrai, bro, ça me tente pas.
Ben, parlant de travailler, on va travailler.
On va travailler.
Ah, oui, voilà la job. Et voilà. On commence. Ben, on vous salue tout le monde à ce troisième épisode officiel de C'est ça qui est ça, votre deuxième balado préféré d'actualité au Québec.
Après?
J'ai aucune idée. On est à la recherche. Cette semaine, Ariane Thibodeau, notre acolyte de toujours, est en vacances. Elle est dans un camping. Alors, Camille Champagne-Tremblay, amie, auteure, humoristique, historienne, improvisatrice, va la remplacer. Camille, ça va bien?
Oui, ça va bien. Merci beaucoup, les gars. Je suis contente d'être là avec vous
toujours
autres.
Content. Oui, c'est un plaisir. Toujours accompagné de mon chum de gosse, Zachary Thégautier. Bonjour, je suis Alex Tremblay. Et cette semaine, on a plusieurs sujets pour vous. Hein? Zachary va vous parler de son patelin et son amour pour du tennis. Par la suite, je vais prendre la balle au bon pour vous expliquer la nouvelle mode de minceur dans le monde du sport et Camille va terminer ça en faisant un appel à l'aide au sujet des feux de forêt. On termine avec une note légère et le fun.
Oui.
Oh, ça va être le fun.
Oui.
Mais avant tout ça, j'ai quelques sujets d'actualité qui ont piqué mon intérêt là, dans les deux dernières semaines, surtout cette semaine. Puis je voudrais qu'on en parle rapido presto. Les élections s'en viennent, provinciales quand même assez rapidement. C'est le 3 octobre, si je me rappelle bien la date des élections.
Ouais, quelque chose comme ça.
C'est début octobre. Puis, en faisant la recherche sur un peu les partis, on s'est rendu compte que on a 5 partis au Québec, mais on en a vraiment juste comme... C'est le 5 octobre? Ouais. C'est le 5 octobre, les élections. On a 5 partis au Québec, mais on en a vraiment plus comme 2,5.
Ouais.
C'est
ouais.
Un peu...
Ben, c'est là qu'on voit qu'on est basé sur un système bipartite.
Ouais.
100%. Mm-hmm. Parce que 10 millions de dollars aux gens qui vont me dire les 7 différences entre la CAQ et le Parti québécois. Après la souveraineté, ça commence à être difficile. Puis même là...
Ouais. Puis même... Tu sais, même... La différence entre le PQ et les libéraux, différence, c'est qu'il y en a deux. C'est l'indépendance puis l'immigration.
Ouais.
Sinon, c'est pas mal. Genre, ben, on va investir dans les compagnies.
Mais en même temps, quand ton parti, comme le Parti québécois, est basé que sur la souveraineté et l'immigration, et c'est sûr que c'est difficile de trouver d'autres différences avec les autres partis.
Ouais.
Je sais pas si je suis le seul. Je sais pas si Camille, t'as vu autre chose passer là-dessus. Je sais que t'as fait de la recherche récemment sur les élections.
Oui.
Le Parti québécois a-tu d'autres cheval de bataille que la xénophobie?
Ben, la culture québécoise.
La bonne culture,
tu sais, que ça pourrait t'évoquer du bleu puis du blanc. Fait que juste les ch'tous.
Est-ce que vous trouvez ça déprimant un peu ou je suis le seul?
Non, c'est super déprimant. Moi, je trouve qu'on a le choix entre l'option A ou l'option B. Puis l'option B, elle a 8% d'intention de vote. C'est-à-dire que genre la gauche n'existe plus au Québec. Là. Ça, c'est évident. Là. Je veux dire, moi, je suis né en 99. Puis depuis ma naissance, la gauche n'a jamais été au pouvoir au Québec.
Non,
à part si tu considères Pauline Marois qui est restée là 16 mois.
Ouais.
À cause des manifs. Le Parti québécois n'est plus le parti de gauche qu'il était à sa conception. Au contraire, le Parti libéral, c'est les gens qui pensent que le Parti libéral sont de gauche, c'est littéralement le mime d'avoir le portefeuille à droite puis le cœur à gauche. C'est dans le sens que, oh oui, on pense que les gays ont le droit d'exister tant qu'ils investissent dans le privé. puis tu sais, la CAQ, oui. Puis la CAQ, ça a été une espèce de... La CAQ, en fait, depuis 2018, c'était genre « Ah, est-ce qu'on a enfin... »
Une troisième option.
Une troisième option. Renverser la vapeur qui était « Ben, es-tu indépendantiste ou non? » Turns out, well, 8 ans plus tard, we're right back where we started.
Ceux qui quittent la CAQ actuellement se positionnent sur l'indépendance. C'est un des trucs... Je pense que ça devait être une grosse tension à l'intérieur du parti pendant leur rencontre interne. Mm-hmm. C'était le fait que des gens étaient indépendantistes dans le parti. Pas qu'ils se chicanaient là-dessus, mais c'est qu'ils disent tellement genre... « Ah, moi, ce serait non que je voterais un référendum. » Puis là, quelqu'un d'autre s'en va et il dit « Moi, je voterais oui. » Le ministre de la Culture qui vient de partir, Mathieu Lacombe, a déclaré qu'il voterait oui à un référendum. Tu sais, ça leur brûle les lèvres, on dirait. 100%. Finalement, c'est un peu un échec.
Puis aussi, moi, ce qui me fascine, c'est que genre, je travaillais sur un autre projet, puis on parlait de ça, mais tu sais, c'est comme, ils nous poussent dans la gorge. En tout cas, eux, ils essaient vraiment de se positionner sur l'indépendance, alors que littéralement, le monde s'en calisse de l'indépendance en ce moment. Même les indépendantistes ne veulent pas un référendum dans les 4 prochaines années parce que les priorités en ce moment, c'est quoi? C'est l'économie, c'est le système de santé, puis c'est le logement. Genre, c'est ça. C'est tout coûte cher. 100%. Je peux plus me loger, je peux pas me faire soigner.
Ça, j'ai été surpris parce que je suis allé faire mes recherches sur Québec 125, GOAT site.
Ah, c'est malade. Incroyable.
Oui. 125. Et moi, j'étais au cégep puis je suis vessée à côté.
C'est incroyable.
Si vous connaissez pas, c'est un site de prévision électorale, entre autres, où est-ce qu'il rassemble des sondages.
C'est un dude qui fait ça.
C'est, ouais,
c'est un prof au cégep. Ouais, je veux pas dire n'importe quoi.
C'est un prof au cégep. J'ai appris ça quand je faisais le forum étudiant. Tu sais, l'affaire de loser où tu t'en vas passer ta semaine de relâche pendant ta session d'hiver à l'Assemblée nationale.
OK, peut-être ça, que t'étais pas une cool finalement.
Non, j'étais pas cool.
Mais je regardais les sondages sur l'indépendance. Puis nous autres, puis tu sais, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent sont un peu dans le même bassin social. Mais il y a comme, sur les réseaux, une grande montée du oui, entre autres à cause de Oui Québec, à cause de comme quelqu'un comme Kinji, entre autres, qui rend ça cool, le fun, populaire, un peu hip. Les sondages, c'est encore les mérites.
Mais oui.
Ça change pas du tout le chiffre.
Mais non.
Même dans les 18-34. C'est sûr qu'on n'est pas capable d'avoir ça ressemble à quoi, mettons, pour les plus jeunes qui sont au secondaire, on n'a pas les données. En tout cas, du moins sur Québec 125. Mais même les plus jeunes, si tu regardes, il y a 4 ans, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a 4 ans, en 2022, c'était à 30% pour les jeunes. Aujourd'hui, c'était à 30% pour les jeunes. Exact. Ça a littéralement pas bougé.
Mais c'est aussi que c'est comme, tu sais, je pense que ça, c'est un autre point dont on pourrait parler, là, mais le mirage des réseaux sociaux, là, comment, genre, les réseaux sociaux te donnent une réalité, puis te donnent l'impression d'une réalité qui est en fait inexistante. Là, parce que quand tu checkes les réseaux sociaux, tout le monde semble être pour le oui quand si tu as moins de 25 ans. T'sais. Mais turns out, c'est sûr que quand tu vas dans le parti des Oui Québec, puis j'étais là à la dernière Saint-Jean, c'est sûr c'est bien le fun, mais comme tu regardes autour, puis c'est genre tout le monde est pareil. T'sais.
Ouais.
C'est toute la même personne.
Ouais, 100%.
Fois 12 000.
Ouais, c'est le comité d'impro du cégep de Saint-Laurent.
Ouais, non,
mais on rit, mais c'est quand même ça. T'sais. Fait que ça, c'est sûr que c'est une version très pointu, tu sais, puis c'est de la réalité, mais même, moi, je veux dire, même les gens qui sont pour l'indépendance, qui voteraient oui, c'est pas une priorité en ce moment pour ces gens-là. C'est pas dans leur top 5 des priorités faire l'indépendance en ce moment. Puis pourtant, le PQ, depuis janvier, depuis que le PQ est en tête, là, il est plus, ça caracole dans les sondages un peu, là, mais la seule chose qui nous met à travers la gorge, c'est genre l'indépendance, l'indépendance, l'indépendance. Même que le seul document qui est sorti, c'est son livre bleu de qu'est-ce que le PQ ferait une fois au pouvoir, une fois l'indépendance acquise. Ouais. Il n'y a pas de plateforme qui sont sorties d'aucun parti. Ça, c'est crazy. On
c'est
est à 2 mois.
À 2 mois, c'est difficile de se renseigner. Si, mettons, tu avais voulu profiter de tes vacances pour te mettre à jour ces partis puis savoir pour qui tu vas voter, bonne chance. Tu vas juste pouvoir le faire sûrement 1 mois, 2-3 semaines avant.
Au débat des chefs. C'est fou, c'est terrifiant.
C'est fou parce que c'est vraiment c'est un livre sur qu'est-ce qui arrive si on est élu au pouvoir, qu'on fait un référendum puis qu'on est genre que ça c'est le oui gang.
Ouais.
Tu sais, c'est comme si je sortais un livre, c'est comme qu'est-ce qui arrive si d'un coup je dunk et je suis LeBron James. C'est comme c'est une fiction. Pour l'instant, c'est une fiction et j'essaie de devenir premier ministre.
C'est ça, tu essaies exactement, c'est comme tu devrais sortir un livre sur pourquoi tu devrais m'élire, pas genre pourquoi je réussirais à faire l'affaire que j'ai inventée.
Mais si je peux faire du pouce sur un autre sujet dont je voulais
parler. Attends, mais je termine avec cette statistique que j'ai vue hier. Il y a plus d'un Québécois sur deux qui est indécis sur son vote en octobre.
Oui, c'est pour ça que je dis que ça ne se joue pas encore. Ouais.
Non.
Ben justement, mais je veux vous parler d'un politicien en précisément qui, pour une raison précise. Premièrement, on va se le dire, Zoran Mamdani, maire de New York, en ce moment, est en train de prouver que tu peux faire de la politique et faire le bien en même temps. Ce qui, était quand même quelque chose qui redonne espoir à beaucoup de gens à travers le monde, parce que ça reste que New York, c'est une grosse ville.
Quand même.
Puis on dirait qu'il n'y a pas une journée qui passe sans que j'ouvre mon ciel puis qu'on me donne une vidéo de lui, super bien faite, où est-ce qu'il dit genre, on a réglé tous les problèmes, puis ça n'a rien coûté, puis tout le monde est heureux, puis je vais jouer dans un parc avec des enfants. Puis c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est autant?
T'as vu la vidéo du dude le matin qui fait un TikTok sur un...
Oui.
T'as vu ça? T'as vu ça? Non. C'est un dude, il se réveille le matin, c'est genre un TikTok, là. Il est comme, yo, Zoran, let me... This is crazy, you need to come fix this. Puis c'est genre un nid de poule dans sa rue, tu sais.
Puis il est comme,
this
is crazy.
Puis là, il va travailler, puis il revient le soir, puis il fait un TikTok, puis il est comme, what the fuck? Genre, le nid de poule a été réparé comme dans la journée, puis il est genre,
impossible.
Y'all are crazy.
Mais ça, moi, c'est... savez-vous, ça me fait extrêmement peur, hein?
De quoi?
Parce que ça m'inspire tellement que, genre, pour moi, il n'y a aucune autre façon que ça finisse autrement que par une liste ou un cancer.
Alors, la fois sur... qu'on a autant aimé un homme, ça nous a brisé le cœur en 2020,
exact.
Je comprends.
Moi, j'ai très peur, honnêtement.
Mais moi, ce qui me fait capoter de Zoran Mamdani, c'est que sa plateforme électorale, puis ses idées, puis la manière qu'il les réalise, sont super le fun, sont super progressistes et tout.
C'est visuel.
Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'à quel point est-ce que les gens vont pas se rappeler des trucs importants de sa campagne, pas les idées et tout, mais à quel point est-ce qu'on va juste essayer de recréer sa campagne de communication?
Mais je pense que je vais faire du pouce là-dessus parce que je pense qu'en ce moment, il y a genre une surestimation. Tu sais, je pense que quand il a gagné, les gens disaient « Ah, il était viral sur Instagram, il a gagné. » C'est pas juste ça. Genre, la manière de... Le contenant, il faut qu'il soit bien, puis il est bien. Mais l'affaire avec Zoran, c'est son contenu.
Son charisme,
mais aussi, c'est qu'il proposait des politiques idées claires. Les démocrates aux États-Unis ont toujours, dans les dernières années, surtout à l'ère Trump, ils n'arrêtaient pas de perdre. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient, au lieu de faire des campagnes pour gagner, ils faisaient des campagnes pour ne pas perdre. Mm. Il faisait, c'était pas vote pour moi, c'était vote contre lui. Puis c'est genre, non, Zoran est arrivé puis il a proposé un projet qui est inspirant pour tout le monde puis qui est à lui. Puis voici des politiques claires. Puis après, oui, on va vous les transmettre avec une bonne communication qui est adaptée aux réseaux sociaux que vous utilisez à tous les jours. Par contre, moi, je pense qu'aujourd'hui, au Québec puis à travers le Canada, puis tu sais, probablement dans le monde, mais dans notre réalité à nous, ce qu'on va voir, c'est des politiciens qui vont encore utiliser des estides politiques dont on se calisse.
Qui vont pas prendre le nécessaire que Zoran nous a amené, qui étaient les politiques, mais qui vont juste qui vont se dire « Hey, mais si on fait une vidéo comme ça avec un sel puis qu'on marche dans la rue, on est la même chose. »
Peut-être les lettres, s'ils sont oranges, ça serait fun. Genre, je pense que c'est ça qui va arriver.
Non, puis j'ai déjà commencé à voir ça passer là, un peu à travers l'Amérique du Nord, un peu des wannabes, tu sais, Mamdani, puis que c'est vraiment du... Non seulement t'as pas, justement, comme tu dis, le fond pour soutenir cette campagne de communication-là, mais je le redis, T'as pas le charisme. C'est comme sa campagne de communication. Exact. Beau gars, beau sourire, a toutes les rêves.
Hey, il circule à vélo là, dans des espèces de tours de l'île de New York, puis il y a des enfants qui sont comme « J'ai donné ton dépliant à ma mère.
Ouais, »
c'est
crazy.
C'est touchant. Genre, il est tellement aimé de la population. En même temps, je sais pas, nous, c'est ce qu'on a des réseaux sociaux, puis on voit des gens de partout dans le monde qui disent des affaires comme « Mon maire par intérim, je suis entre parenthèses, je suis australien. »
That's my mayor, I live in Frankfurt.
Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, il y a le courage de faire ce qui est demandé par des populations depuis des années, tu sais, par rapport à Israël, justement, en disant que Netanyahou est un criminel de guerre. On dirait que ce gars-là a le courage. Genre, moi, j'ai peur qu'il se fasse gonner. Je suis vraiment là. moi, je suis doomer en ce moment. Là, ça n'a pas de sens.
Mais je comprends parce que c'est tellement rare qu'on est. Tu sais, je pense que c'est tellement rare qu'on se fasse offrir de la bonne en politique, qu'on est craintif.
Le gars, il s'attaque à Amazon en ce moment.
Ouais, ça, c'est fou.
Chose que personne n'avait fait.
Non.
Il s'attaque.
C'est fou que nous, c'est les breadcrumbs qu'on a en ce moment. Tu sais, nous, Zoran Mamdani, il n'y a aucun impact sur nos vies. Là. Aucun. Matériellement, symboliquement, sûr, mais genre, mais on est tellement...
Ouais, on est tellement affamés.
On est tellement affamés, on a tellement personne qui répondent à nos désirs politiques qu'on est genre... Oh, enfin, un dude à New York m'en donne.
Le dude à New York ouvre des parcs plus tard durant la Coupe du Monde. Je suis comme, ah, le monde est sauvé.
Oui.
Je suis comme, ça a un impact. Exactement. Et puis, finalement, j'avais un troisième sujet dont je voulais vous parler. Il faut qu'on en parle.
Oh là là.
C'est le sujet de l'heure. Le Streamergate.
Premièrement,
cette semaine, le fait que je dois apprendre l'existence du Streamergate. Mm-hmm. Et deuxièmement, le fait que je dois demander à quelqu'un dans mon pool d'hockey qui est Médusa. Déjà, pourquoi est-ce qu'on...
Mais c'est un homme chic et de bon goût, Alex.
Mais oui, 100%. Mais moi, ce qui m'a surpris après... Ben, ce qui m'a surpris, on s'entend, il y a toujours...
des gros guillemets autour.
Oui, exactement. Ce qui m'a surpris, c'est que... la raison pourquoi est-ce que laquelle cet événement... Si vous le savez pas, en fait, le Streamergate était comme un événement de streamer québécois.
Streamer Fest, en fait.
Streamer Fest, organisé sur un yacht à Miami.
Ouais.
Où est-ce qu'un streamer québécois qui s'appelle Médusa a invité plein de personnalités du web québécoises pour venir faire comme un party à la fin de semaine où il y a à avoir des streams, etc.
Tout était payé par Médusa.
Exact.
Oui.
Puis, controverse, tout le monde s'en va parce que sur plusieurs des streams, Médusa a été pris à dire des propos crissement misogynes qui n'avaient pas de bon sens. Et c'est pour de vrai... Ce qui me choque quand même, puis qui n'est pas surprenant, mais qui est toujours choquant, c'est à quel point est-ce que on le savait clairement que ce gars-là était comme ça. C'est une surprise pour personne. Mais maintenant que c'est fait sur un live et que tu as les répercussions, parce que ton chat te dit ça n'a pas de bon sens, tu crises ton camp, puis tu as plein d'autres vidéos qui sortent que c'est les mêmes gens, les mêmes streamers avec Médusa qui chillent avec, puis qui entendent des propos complètement déphasé qui va dire.
Qui s'en
collise bien raide.
Mais ce gars-là, c'est jamais gêné de tenir ces propos-là. Là. C'est pas nouveau de son streamer fest. Là. Mm. Le gars, il a parti Homeless to Rolex. Ah ouais. Là.
Ça, c'est fou. Tu veux t'expliquer c'est quoi, vite, vite?
Oui, oui, c'est une télé-réalité où il prend des personnes en situation d'itinérance dans la rue et les fait se soumettre à quelques compétitions pour prouver qu'ils méritent d'avoir une Rolex. Bon, bref, l'itinérant gagnant va se mériter une Rolex. C'est dystopique complètement. Je pense qu'un auteur du 19e siècle qui crée des mondes pouvait prédire l'existence de la carte crédit, pouvait prédire l'existence de la radio, mais jamais n'aurait pu prédire ça. En fait, c'est Hunger Games.
Je voudrais avoir votre avis. Je ne sais pas si vous avez la référence, mais j'ai l'impression que c'est l'évolution logique de les vidéos YouTube de FousseyTube dans le temps. Que c'était un YouTuber qui allait vraiment chercher, mettons, par exemple, vidéo de FousseyTube normal, c'est genre prank in the hood, en parenthèse, gone wrong. Ouais, c'était des trucs de même. Ah. Où est-ce qu'il exploitait un peu vraiment, mettons, la pauvreté ou le racisme pour faire des views, mais toujours avec un point de vue de comme, ah, oh, c'est une expérimentation sociale pour social dénoncer quelque chose. Puis c'est comme, t'as aucun fond.
T'es allé dans le brunch, t'as dit N-word, là, genre, dans le sens.
Ouais.
Of course que t'allais te faire, genre, engueuler puis te faire pousser.
Mais ce contenu-là était vraiment populaire.
Mais turns out aussi, c'était tout fake, là, ces shit-là. Je sais pas si FousseyTube, je me rappelle plus de lui particulièrement, mais la méta était tellement. Sur YouTube, à cette époque-là, c'était tellement de faire des pranks que le monde faisait juste payer des acteurs. Il fakait un prank. Il fakait la réaction des acteurs.
Ah, super.
Puis là, il faisait des views, puis il payait le monde.
Puis c'est comme tu sais que ça va pogner parce que le monde est comme accroché à la poverty porn, là, qui est un vrai terme pour dire que les gens aiment ça, voir des gens être dans des états lamentables. Puis je sais pas, c'est comme quelque chose qui attire notre regard. C'est du voyeurisme, dans le fond, du voyeurisme de la pauvreté.
Est-ce que c'est parce qu'on en a peur ou parce qu'on est comme « Ah, fiu, c'est pas moi, genre. »
Ouais,
un peu les deux, je dirais. C'est comme un intérêt malsain pour ces situations-là économiques-là.
Ouais, un peu comme j'imagine regarder, mettons, moi, j'ai jamais, mais mettons, les gens qui regardaient, mettons, des beheadings de ISIS dans le temps. T'sais, mettons, des vidéos graphiques de comme ça, ou, mettons, de meurtres, là,
sur Live Leak. Moi, je pensais à des bodycams de police aux États-Unis qui vont faire des... welfare check, là.
Ah, ouais,
tu sais, la police cogne, puis là, tu vois l'intérieur de la maison, c'est comme n'importe quoi, puis le monde rush, puis ils finissent par trouver une personne, tu sais.
Mm-hmm.
Genre le ticoun, là, tu sais. Avez-vous écouté le Dents d'une paix?
Non!
Moi, je faisais ça en secondaire 5, mais il y a un... Dans la famille, il y a un gars, il est autiste.
OK.
Puis à l'époque... au Québec. Ça se passe dans un Québec rural, genre Charlevoix, 1920, okay? À l'époque, on savait pas comment prendre en charge les gens neurodivergents. Fait que lui, quand il faisait des espèces de crises, il l'enfermait dans une pièce. Il était comme « mets Ticoun puis mets une chaise pour pas qu'il puisse sortir ». Fait que tu faisais juste entendre Ticoun crier, tu sais.
Hey, c'est horrible. Je ferais même pas ça avec mes chats. C'est
ça n'a pas de bon sens.
Mais c'était comme
mets
ça. «
Mets Ticoun, mets une chaise, il va sortir ».
Un jeu qui s'appelle Ticoun.
C'est fucking
Mais tu sais, c'est
incroyable.
Une émission qui a été écrite dans les années...
Non, je rose pas l'émission, là. C'est plus genre... Non, c'est vrai que c'est ça, comme ça, le traitement.
Ça se passait comme ça, mais c'est fou, là. Mm-hmm. Genre, dans les archives que j'ai dépouillées aussi pour les gens, parce que Tremblay, tu l'as dit, je suis historienne, puis je travaillais dans un centre de recherche dans tout ce qui était inégalité sociale, mais ça incluait tout ce qui était asile, psychiatrique, histoire des hôpitaux, etc. Puis comment on traitait les personnes autistes, là, en Nouvelle-France, c'était quoi? Mais là, dans la maison la plus loin, il dort dans des espèces de cachots. Il est dans sa merde. Puis là, à un moment donné, il a commencé à avoir des inspecteurs qui allaient dans ces affaires-là. Puis des fois, dans leur rapport d'inspection, sont littéralement, genre, ils ont le cœur brisé.
Ah, c'est terrible.
Incroyable.
En tout cas,
c'est terrible. Mais moi, je pense
tout ça pour
aussi
dire
que
ça existe encore des fois, la détresse par rapport à cette neurodivergence.
Oui, mais ça existe. Mais aussi, je pense que la curiosité, elle est vraiment dépendante de l'écran. Tu sais, je pense que dans la vraie vie... Tu sais, mettons, moi, durant la pandémie, je faisais du bénévolat. J'allais porter des repas à des personnes. D'un OBNL, il portait les repas. Puis c'est genre des aînés, tout ça. Mais il y avait aussi du monde qui était en situation genre de pauvreté, là, genre d'extrême précarité, tu sais. Puis... À un moment donné, il fallait que j'accompagne une femme à son rendez-vous médical. Puis je suis rentré chez elle et je voulais, comme j'ai vu son chez elle, genre c'était vraiment terrible, c'était terrifiant. Puis à ce moment-là, j'étais comme, je ne veux plus jamais revivre ça. Genre, si je l'avais vu à travers un écran, peut-être
que... Elle avait du order un peu?
Ouais, mais c'est aussi que ça sentait... Quelque chose était mort dans cet appartement-là. Là. Comme clairement quelque chose...
Comme une souris ou
Souris ou un chat ou quelque chose. Ça empestait. C'était dégueulasse, là, vraiment, c'était dégueulasse. Puis, genre, j'étais comme, ça m'a vraiment brisé le cœur, mais c'est aussi que j'ai pas voulu en avoir davantage. Tu sais, alors que, est-ce que, quand tu fais face à l'extrême détresse dans la vraie vie, je pense pas que t'es genre, je vais scroller puis voir l'autre reel où on m'en montre un autre. Je pense que c'est comme, je veux cesser de
ça,
voir
c'est,
ça.
Oui. C'est réel.
Oui. Ça c'est réel.
Tu le c'est vois, réel, c'est comme, il y a quelqu'un qui existe pour de vrai, qui doit vivre dans cette situation.
C'est pas
situation
un personnage là. Dans mon cell, tu sais. Puis je pense, moi, l'autre affaire aussi, que je sais pas trop qu'est-ce que ça va faire, mais je serais curieux de voir comment les maisons de prod entrevoient genre le monde du Twitch puis du stream, parce que visiblement, là, ça devient ça, la nouvelle télé-réalité qui est écoutée. Tu sais, je pense que Medusa, il a topé le 25 000 viewership en simultané. Fait que je me demande si, genre, tu sais, parce que c'est devenu mainstream, là. Les gens ont fait des chroniques à Cube, puis à fucking Cogeco, puis à Radio-Can. Genre, les gens ont la ref maintenant des streamers. Fait que, à voir si ça va changer quelque chose pour les concepts de télé-réalité, puis ces choses-là.
Ok, t'sais. C'est ça, par rapport à comment ils vont se positionner par les concepts, ou est-ce qu'ils vont inviter ces gens-là maintenant dans la télé pour que l'attention des jeunes se redirige vers les...
C'est ça, je sais pas. Mais j'ai l'impression que là, c'est comme il y a un shift. Là.
Ouais, ça si fait partie jeunes... de la discussion. Avant, ça l'était peut-être pas, mais maintenant, c'est faut en parler.
Ouais.
Parce que c'est la stratégie qu'on va utiliser va dépendre ou va différer, mais je pense que si tu t'assois et t'es une boîte de prod qui veut faire de la télé au Québec pour des jeunes, ben... Tout comme il y a 12-13 ans, c'était comme, il faut qu'on parle de Thomas Gauthier parce que le YouTube commence à pogner.
Oh mon Dieu, Tom Lee TV.
Mm-hmm. Maintenant, ben, faut commencer à parler des streamers. Mais c'était le fun de parler de tout ça. On va aller dans les chroniques. Et la première chronique, ça va être Zachary avec une chronique sport politique-ish cette semaine.
Chronique politique.
Vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
Fait que comme ça, Zach, toi, grand fan de tennis.
Oh, j'adore le tennis. Je sais pas si vous le saviez, là, mais on vit présentement un moment assez fascinant. Je sais qu'il y a plein de monde qui se plaignent qu'on peut plus s'acheter de maison puis qu'il y a autant de canicules que de streamers misogynes, mais notre époque nous réserve quelques surprises. Saviez-vous qu'en ce moment, au moment où je vous parle, en ce moment, au lieu de faire ça, on pourrait être en train de checker du tennis au Parc Jarry? Oh. Certains losers vont parcourir, d'autres hosties de losers vont jouer à genre âme sur terre. Mais les vrais savent que la seule raison valide d'aller dans un parc, c'est pour aller à l'Omnium Banque Nationale. Mm-hmm. OK, je vais parler du Parc Jarry, puis du plan de Tennis Canada. Oui, je vais en parler, mais je vous promets que je vais être contre. d'abord, les grandes lignes. L'Omnium Banque Nationale est un tournoi de tennis annuel de catégorie 1000. Master 1000. Ça fait 45 ans que le tournoi est installé au Parc Jarry. Puis là, ben, faut un nouveau stade. Tennis Canada est dans la crise de la quarantaine, mais contrairement aux hommes mûrs, le stade n'a pas besoin d'aller en Turquie pour se faire greffer une belle tignasse. Le plan est plutôt de rester au parc puis de construire deux courts. Un pas pire mieux, puis un vraiment pas pire plus mieux nice. Genre avec un toit rétractable. Puis jusqu'ici, je peux pas dire que je vois le problème. Genre le tennis veut se payer un trip, que le tennis, c'est pas un trip. Moi, je veux dire, ça me fait plaisir de leur envoyer un bye-bye en leur disant genre 40, 15 avantages, whatever. Je sais pas ce qu'ils disent, c'est ce style-là. Mais l'enjeu, c'est qu'en modernisant leur infrastructure, les installations qui occupent déjà 22% du Parc Jarry en occuperaient désormais 27%. Et ça, je suis désolé, c'est pas acceptable. Le Parc Jarry est le seul grand parc dans cette région montréalaise. Il dessert Parc Extension à l'ouest, Villeray à l'est, puis le Monde d'Audé durant la pandémie. C'est l'endroit pour bouger, pique-niquer, puis nager dans la piste publique, piscine publique. Puis moi, je vous le dis, je suis un gars de Villeray. De ma tendre enfance jusqu'à mon âge vénérable d'aujourd'hui, il y a juste une année que j'ai passé à l'extérieur de mon patelin. C'est chez nous, Villeray, c'est mon hood. Puis je peux vous dire que le Parc Jarry, c'est le poumon de nos étés. Surtout pour les habitants de Parc Extension qui habitent un quartier nu d'espace vert. Je veux dire, ce matin, j'étais littéralement en train de nager au Parc Jarry. Hier, je lisais au Parc Jarry. Parce que j'en ai pas non plus des balcons chez nous, puis j'ai pas de cours. Fait que où est-ce que je vais? Où est-ce que je m'en vais? Au Parc Jarry, man! Gruger le peu d'espace vert qui nous reste pour jouer un sport aussi accessible que riche en diversité, c'est la première affaire qui me fait profondément chier. En 27 ans dans Villeray, combien de fois vous pensez que je suis allé à l'Omnium? Combien de fois? 1 à 5 fois? 5 à 10 fois? Plus que 10 fois?
T'es jamais allé.
Eh bien, la réponse, c'est que je suis allé à l'Omnium 0 fois. 0 fois. Et oui, maman, le même nombre de fois que j'ai fait de la drogue. 0. Oui, je m'en crisse du tennis. Puis oui, c'est full anecdotique. Mais malgré l'anecdote débile de ma part, je pense pas que l'Omnium Banque Nationale dessert les communautés des arrondissements comme le fait le Parc Jarry. Cette année, les chiffres montrent que ce serait une année record en termes d'achalandage, puis en moyenne, on parle de 250 000 personnes qui vont au tournoi. Mm-hmm. C'est super, mais je serais curieux en esti de savoir il y en a combien là-dedans qui viennent des quartiers environnants. Il y en a qui viennent de Montréal, j'en suis certain. Mais si t'es pour venir dans mon fucking parc, laisse-moi mon fucking parc, OK? Parce qu'il y en a des espaces verts à Ville-Mont-Royal, il y en a des espaces verts à Westmount. Faites-les dans vos espaces verts, votre espèce de tournoi de riches, là. Il y en a pas de souci. Ça aussi, ça me gosse. Ça me gosse, OK? Au début de l'été, une autre affaire qui me gosse, c'est qu'on apprenait que l'arrondissement avait pris la décision de déménager la piscine du parc Jarry pour l'envoyer ailleurs, plus près de la pâte aux joueurs. Ils voulaient faire un pôle aquatique. Mm-hmm. Mais surprise, la nouvelle piscine ne va plus avoir de longueur de 50 mètres et plus de plongeoires non plus. Ah non, ça va être éliminé. Fait qu'on perd une qualité d'infrastructure. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas juste rénové la piscine actuelle? Ça, on ne le sait pas. Mais bizarrement, en juillet, on a une réponse de Tennis Canada qui nous montre ses plans de modernisation et surprise, ils vont maintenant occuper l'espace de la piscine. Ah ben tabarnak! Quelle coïncidence! T'es en train de me dire que le même été que l'arrondissement décide de changer la piscine de place, comme de fait, Tennis Canada avait besoin de l'ancien terrain. Calisse! Hey, j'ai l'impression de trouver une fourchette dans une cuisine et être assez con pour être surpris. Non seulement la piscine, c'est ciao, mais Tennis Canada va aussi occuper un terrain de baseball. Mais ça, ne vous en faites pas, Tennis Canada nous dit que c'est pas si grave de remplacer un terrain de baseball par un court de tennis extérieur. Hein, après tout, c'est remplacer une infrastructure sportive par une infrastructure sportive. C'est vrai que le tennis puis le baseball, c'est la même affaire. Le même nombre de joueurs, puis même culturellement, c'est les mêmes peuples qui jouent à ça. C'est vraiment, ça tombe bien parce que dans Parc Extension, il y a beaucoup de Pakistanais, d'Indiens, d'Afghans. Puis tu sais, surtout les Pakistanais et les Indiens, ils jouent beaucoup au cricket, tu sais, ils jouent beaucoup au baseball un peu moins, mais ça reste des mm-hmm. t'as besoin d'un grand terrain. Puis ça tombe bien parce que ils vont pouvoir jouer au tennis. Certains diront que Tennis Canada a de l'audace. Moi, je veux dire qu'ils sont culottés en tabarnak. Ils ont la culotte haute en esti. Je veux dire, ils sont obélix. Là. Ils sont... Ouh! Ça les enrobe. Tennis Canada va même jusqu'à oser nous dire que les infrastructures seront accessibles à l'année pour les utilisateurs. Hein? Quoi? Je vais pouvoir aller jouer au tennis à l'année? Super! Quoi de mieux pour oublier mes anciennes balades dans le parc? Splendide! Le paroxysme de la bêtise, c'est le plan de financement. Tenez-vous bien. Tennis Canada propose un plan de 400 millions de dollars financé par les contribuables à combien de pourcentage?
90.
90%. 160 millions par le Canada, 160 millions de Québec, 40 millions de Montréal, puis 40 millions de Tennis Canada. Ouais, il n'y a pas de souci. Non, mais je comprends. Moi aussi, c'est ma priorité numéro un. Le tennis. C'en est une autre, par contre, de vouloir faire avec l'argent des contribuables les rénovations les plus chères de l'histoire récente des Master 1000. Ça, c'est Vincent Brousseau-Pouliot dans la presse qui nous en parle. Je vais le citer ici pour le restant des paragraphes. Je trouve qu'il a fait un magnifique job pour nous montrer les comparatifs. Il nous parle d'abord de Cincinnati, où le milliardaire Ben Navarro, propriétaire du Master 1000, vient de terminer des rénovations majeures de 260 millions, donc 360 millions canadiens. Il n'a pas ajouté de toit rétractable au court central, malgré que ce soit à Cincinnati, dans le nord. Les contribuables ont payé environ la moitié de la facture, puis lui, il a payé l'autre moitié. À Rome, la Fédération italienne, elle, propriétaire du tournoi, comme Tennis Canada est propriétaire de l'Omnium Banque Nationale, elle a ajouté un court central avec un toit rétractable au coût de 160 millions d'euros, payé en totalité par les contribuables. Mais 160 millions d'euros, c'est 258 millions canadiens. Je ne sais pas si vous calculez, mais c'est déjà, encore une fois, 150 millions de moins. Environ 48% des dépenses touristiques liées au tournoi proviennent des touristes de l'extérieur du Québec. Ça, c'est, encore une fois, Brousseau-Pouliot qui nous en parle. Si on applique ce ratio aux recettes fiscales, ça donne 6 millions de dollars de recettes fiscales par an qui proviendraient en quelque sorte de l'extérieur du Québec. Du véritable argent frais dans des coffres des gouvernements. Calcul rapide. À ce rythme-là, ça prendrait 60 ans pour rembourser les 360 millions demandés aux contribuables avec les dettes fiscales, générées à l'extérieur du Québec. Soyons polis, c'est pas un investissement public très rentable économiquement. Ça, c'est Vincent Brousseau-Pouliot qui nous dit ça, puis peux pas m'empêcher d'être d'accord avec lui. À un moment où les feux de forêt rasent nos régions et où les canicules nous cuisent vivants, je pense que l'heure est davantage au verdissement et à l'investissement dans les espaces communs, pas à un tournoi déconnecté de son milieu. Mm. That's it, that's all. Je suis en crise de ce petit tournoi-là.
Ouais, ça... on le ressent, Zach.
Ah, ça me fait t'en avais, chier.
Ça, c'était thérapeutique pour toi, peut-être?
C'est thérapeutique. C'est, je trouve, en fait, c'est que je trouve que l'histoire se répète, genre. Mm-hmm. Et ils vont, parce que si tu me dis... Tu sais, qu'est-ce qui me prouve, de un, que ça, ça va nous donner un Omnium Banque Nationale pour le restant de nos jours? Ils peuvent très bien l'annuler demain matin. Puis qu'est-ce qu'on fait après avec cette infrastructure-là? Puis de deux, c'est comme, on en a plein des infrastructures désuètes. Pourquoi? Et on pourrait peut-être le déménager. Ce terrain-là, on pourrait peut-être faire autre chose. Puis ça me brise le cœur parce que jamais on va empiéter sur le terrain des autres. C'est encore le terrain, des terrains verts. C'est toujours les terrains verts qui écopent tout le temps, tout le temps.
Si je peux me permettre, Zach, voilà. Aussi, juste mettre en lumière que techniquement, Montréal a signé une licence pour présenter l'épreuve du Master 1000. Pour les gens qui ne connaissent pas trop le tennis, Master 1000, c'est la deuxième plus grande catégorie de tournoi. Il y a 4 grands chelems à travers le monde. C'est les plus grands tournois. Master 1000, c'est juste en dessous. C'est vraiment des énormes tournois. Et Montréal a signé une licence jusqu'en 2052.
Bon, super.
Fait que techniquement, l'ATP qui est la WTA, donc l'association masculine et féminine, ne pourrait pas enlever le tournoi juste comme ça, étant donné que les infrastructures ne font plus la job. Ce que le président de l'ATP, Enopolo, nous dit, c'est que dans un monde où les joueurs décident que les infrastructures ne sont plus à leur niveau et qu'eux, peut-être, décident d'arrêter d'y aller, comme cette année, il y a beaucoup des meilleurs joueurs au monde qui ne se sont pas présentés à Montréal dû à des blessures, apparemment. Il y en a que c'est vraiment des blessures, il y en a qu'on se pose la question. Si les joueurs arrêtent de venir, ils disent ben, peut-être que les fans vont arrêter de faire le voyagement. Et là, à partir de ce moment-là, ben, si c'est plus rentable, peut-être que là, les joueurs vont décider par eux-mêmes, indirectement en fait, là, de tuer le tournoi. Mm-hmm. Parce que les joueurs ne sont pas signés avec l'ATP, c'est des pigistes.
Ouais, je comprends.
Fait que c'est comme le pouvoir est aux joueurs dans cette situation-là.
Voilà soulagé.
mais je pense que ça infirme ou confirme rien. Moi, mon take, c'est genre, c'est plutôt de dire de je ne comprends pas pourquoi on est capable de me faire des prédictions de retombées économiques d'un tournoi dans lequel on va devoir mettre 360 millions de dollars de nous tous et toutes. Oui. Par contre, on est incapable de me dire c'est quoi les retombées économiques d'un des plus beaux parcs de la ville de Montréal, qui en a certainement, parce que, mais ça, on ne le calcule pas. Mm-hmm. On ne calcule pas le bienfait aux habitants. On ne calcule pas l'accès à des îlots de rafraîchissement durant des canicules. On calcule
le
pas
Ultramort,
ça.
Là, coin Jarry-Saint-Laurent.
On ne calcule pas ça.
Et que le monde de Jarry, du parc Jarry,
l'encourage. On achète de la bière, hein? Man. Ça s'en achète.
Non, mais 100%, mais aussi, en tout cas, c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression que cette décision-là ne serait... On le camoufle avec des chiffres de comme « Ah, oh, mais techniquement, il y a des retombées économiques. » Je pense vraiment qu'ils s'en foutent des retombées économiques.
Je pense qu'ils s'en foutent.
Puis
aussi.
Je pense que ce serait quasiment plus gagnant de leur part de dire « Mettons, c'est un investissement dans la culture ou sportive québécoise, peu importe, que de faire semblant que comme... » Tu sais, mettons, moi, j'adore le tennis.
Oui, c'est ça.
J'y vais très souvent à l'Omnium Banque Nationale, plusieurs fois par tournoi. Parce qu'honnêtement, par exemple, petit point, c'est très facile, c'est très abordable. Je vais être franc avec vous. Ouais. Des bons billets peuvent me coûter 40$. Puis je suis là pratiquement toute la journée.
C'est moins cher que le Canadien.
C'est extrêmement moins cher que le Canadien parce que pour de vrai, il y a vraiment beaucoup de stades et ça se vend pas parce que les meilleurs joueurs ne sont plus présents. Mm-hmm. Cette année, les trois
fait que
meilleurs
notre
joueurs...
solution, là, c'est comme être dans une relation toxique puis envoyer genre des bouquets de fleurs à ces gens-là et pour les forcer à rester avec nous en privatisant un lieu public.
C'est
genre...
que c'est fou.
Techniquement...
Ben, techniquement, c'est pas privé.
Non.
C'est public. C'est un lieu... Techniquement, c'est que Tennis Canada est une OBNL puis veut... Mm-hmm. Puis tu sais, c'est ça qu'ils disaient dans leur pitch, son genre, c'est pas vrai qu'on va empêcher les gens de profiter de notre infrastructure. Notre infrastructure va être disponible 11 mois par année. Enfin, dans le même,
genre, c'est du 3 saisons qu'il appelle.
C'est du 3 saisons. Il va être disponible. Mais je suis comme, oui, mais on va pas l'utiliser. Moi, c'est ça mon take. C'est que les gens qui utilisent le parc Jarry, tu leur enlèves un terrain de baseball. Ce qu'ils disent pas non plus, c'est que leur nouvelle infrastructure va complètement murer, ou en tout cas va complètement... Il y aura basically une espèce de grosse bâtisse qui va être dans une des seules entrées ouest qui donne sur Parc Extension. Fait que ça va comme enlaidir cette entrée-là.
Ouais.
Puis surtout, c'est genre... Si tu veux que le Parc Jarry soit un fief du tennis au Canada, pitch-le-moi de même. Arrête
faire semblant.
Faire semblant que genre, c'est les gens de Villeray qui sont puis de Parc Extension qui vont être gagnants.
Parce que l'affaire, c'est que, mettons, d'un point de vue vraiment tennis sportif, c'est que le fait que le toit, en fait, c'est pas parce qu'il neige, c'est à cause de la pluie. Par exemple, les joueurs peuvent pas jouer.
Cincinnati, on n'a pas de toit.
Je sais, mais Cincinnati a des problèmes qui sont plus ou moins similaires, mais qui sont un peu différents. Mettons, pour faire histoire courte, je vous parlais de Grand Chelem. Il y a un Grand Chelem sur plusieurs surfaces, surfaces dures, comme à Montréal. Là, on est dans la saison des surfaces dures, OK? Donc, il y a des petits tournois, puis les tournois commencent à grossir en termes de prix, de points, d'argent, jusqu'à temps qu'on arrive au dernier tournoi de surface dure, qui est le US Open, qui est le Grand Chelem à New York. Et tout juste avant, tu as le Master 1000 de Cincinnati, et tout juste avant le Master 1000 de Cincinnati, tu as le Master 1000 du Canada. Les joueurs vont souvent choisir d'en faire qu'un seul des deux parce que sinon, tu te brûles en jouant deux tournois de 13 jours de suite avant un tournoi qui va en durer deux semaines. C'est trop. Cincinnati, géographiquement parlant, est plus proche de New York.
Mm-hmm.
Fait que là, tu prends une petite pause à Montréal, tu joues pas, tu arrives à Cincinnati, tu te mets dedans, tu fais un tournoi, c'est le fun, tu es proche de New York, tu y vas, tu es prêt pour ton tournoi. Fait qu'il y a ça qui joue aussi. Avant, le tournoi de Montréal était plus court. C'était un tournoi d'une dizaine de journées. Maintenant, on a 13 jours. Parce que lorsqu'il pleut, on doit remettre des matchs.
Mm-hmm.
Quand on était 10 jours, on n'avait nulle part où les remettre. Donc là, avec les 13 jours, on se donne du temps. Les joueurs se disent 13 jours, c'est trop long. Si tu as un toit maintenant, le tournoi peut redevenir un tournoi de 10 jours en théorie.
Mm-hmm.
Les joueurs savent que si on me dit que je vais jouer le mardi soir, je vais jouer le mardi soir. Faut pas que je me mette prêt pour le mardi soir, le mercredi matin, puis le mercredi soir, parce qu'il pleut tout le temps. Fait que c'est comme cette façon-là, cette stabilité-là. Peut ramener des joueurs, peut ramener une sorte de
ouais,
de...
moi, la seule chose que j'aime de l'Omnium Banque Nationale, c'est que chaque année, il pleut pendant ce tournoi-là. Fait que moi, c'est des jours où j'ai pas besoin d'arroser mes plantes sur mon balcon. C'est la seule chose, c'est la malédiction de l'Omnium.
Moi, je pense que l'insulte à l'injure, c'est de me dire que ça va nous coûter 400 millions puis que ça va être nous tous qui va le payer. Ça, je suis comme, vous êtes fous dans la tête. Genre, je trouve ça fou. Puis le Canada dit oui.
C'est du sport d'élite. On va financer du sport d'élite au détriment.
Ouais.
Le sport démocratique gratuit pour une population, surtout quand tu es proche de Parc Extension, qui est un des quartiers les plus pauvres.
Oui, et que le moins de parcs. Il n'y a pas de parc à Parc Extension. Ils n'ont pas de balcon. Ils n'ont pas de balcon.
C'était le parc Jarry où on allait.
C'est juste que, tu sais, mettons, tu en as parlé, c'est que Tennis Canada est une OBNL. Fait qu'ils n'ont pas 400 millions dans les coffres. Est-ce que ça devrait être fait avec le privé? Ça devrait être avec banque. Non, mais dans le sens, c'est pas
en tout respect, je m'en crisse parce que.
Je sais, c'est pas notre problème.
Moi, c'est comme ça mon problème.
Il est où le courrier quand on a besoin de lui?
C'est ça, genre, moi, c'est pas. En fait, c'est parce que c'est ça mon take, c'est que je suis comme. Je pense que nos administrations publiques devraient dire, ben, too bad, c'est pas une priorité live. Un stade, genre, 100%. C'est pas une priorité. Surtout qu'on en a un en ce moment live qui est en train de dépérir, notre
stade olympique.
Fait que je suis comme, encore une fois, j'en reviens pas que le Canada est comme, ouais, pas de stress, on va vous donner 160 millions. Que Montréal est genre. Le Montréal a comme dit oui et non, en fait.
Quand on demande de l'argent pour le logement, ils sont comme, oh, on a exact. Les poches, là, vite.
Eh oui, les artistes, est-ce on leur demande de genre nous sucer toute la gang s'ils reçoivent 30 000 piastres du calque, genre. Puis, mais là, 160 millions du Québec, 160
millions. Ça s'est
trouvé demain. Bam!
Mais écoute, je vais arrêter ça là. Non, mais c'est correct, c'est un cri du cœur qui méritait d'être fait. Je vous arrête là. J'ai quelque chose de similaire. On s'en va à la chronique sport.
Chronique sport.
Fait que toi, tu parles de la même affaire.
Environ, Zach. On n'est pas loin. Je sais pas si vous avez remarqué le retour en force de la minceur dans l'imagerie populaire de ce temps-ci. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous a marqué. Là. J'ai l'impression que toutes les célébrités perdent tellement de poids à vue d'œil que c'en est inquiétant.
Oh,
c'est comme Ozempic.
Oui, ben tu sais, je pense à Ariana Grande qui est venue récemment à Montréal.
Exactement.
Ouais, tu te poses des questions. Eh bien, vous serez heureux d'apprendre que cette mode de s'amincir n'est pas exclusive aux stars de la pop.
Non,
effectivement, le
phénomène. On est grossophobe ailleurs.
le phénomène s'est incrusté dans le domaine du sport, mais peut-être pas de la manière dont vous auriez pensé. Parce que cette folie de cure de minceur s'est attaquée au stade sportif. Non, fuck, my God, les stades! Non, vous mettez tellement de pression live! Arrêtez, pour l'amour de Dieu! Ah, mettez un peu, Alex, là, comment des stades sportifs peuvent s'amincir? Allez, je vous explique. C'est mon moment. Alex explique. Je vous amène à Buffalo. Les Bills de Buffalo, grande équipe de la NFL, auront la chance de jouer devant pas moins de 62 000 fans dans leur tout nouveau stade cette année. 62 000, c'est pas rien, là. C'est l'équivalent de tout Blainville sous un même toit. Voyez-vous, ce qui est le fun avec cette statistique-là, c'est que je pourrais littéralement vous mentir, vous avez aucune idée, il y a combien de personnes.
Non, je sais pas.
Mais dans tous les cas, je vous jure.
Blainville sous un même toit.
Ouais.
J'espère que je ne les suis pas.
Bref, dans tous les cas, 62 000 personnes, c'est du monde en vierge.
Ouais.
Et ça, c'est cette année, ils vont pouvoir jouer devant 62 000, mais ça reste que c'est 10 000 places en moins que leur ancien stade. Hey, 10 000. 10 000 personnes, c'est pas rien. C'est l'équivalent de toute la population de Montréal. Cette réalité-là touche. Cette réalité-là touche toute la ligue. Là, c'est pas juste une affaire des Bills de Buffalo de d'amincir leur stade. Le stade moyen de la NFL faisait avant 72 000 places et en fera désormais 65 000. On parle d'une perte assez grande. Même problème dans d'autres ligues. Je vous amène dans la MLB, la ligue professionnelle de baseball, où plusieurs équipes, dont les grands Yankees de New York, vont se débarrasser de plus de 8 000 sièges. Même chose dans la NBA où les récents vainqueurs, le Thunder de Oklahoma City, va aussi déménager dans un plus petit aréna. Là, je vous dis Bills de Buffalo, je vous dis Yankees de New York, je vous dis Thunder d'Oklahoma City. Ce sont trois énormes franchises qui ont eu du succès quand même assez récemment ou qui sont des franchises qui ont plus d'une centaine d'années. Fait qu'ils n'ont aucun trouble à vendre leurs billets. Alors pourquoi, au grand pourquoi, est-ce qu'on amincit nos domiciles? Hey, à défaut de sonner comme un étudiant de première année du Cégep du Vieux-Montréal, la réponse est, comme toujours, le capitalisme. Mon ennemi juré, le capitalisme, mon némésis de toujours, celui qui entre minuit et augmente le prix de mon 4,5, le capitalisme est encore une fois derrière cette supercherie. Écoutez, la stratégie est assez simple. OK. Zach, Camille, vous avez un stade.
OK. Oui.
En haut ici, j'ai 100 places cheap. OK. C'est 100 mauvais sièges, mettons. Fait qu'on va mettre un prix qui a rapport avec, tu sais, un prix correct. Mettons, on se dit c'est 100$ le siège. Ben, 100 fois 100, ça fait 10 000 $. Vous venez de faire 10 000$.
Sure.
10 000$ dans vos poches. Nice. Un peu. Attendez. Mais là, le concept même du profit vous murmure à l'oreille une idée de génie. What if, à la place, on rase tous ces sièges-là pour à la place construire une loge corporative. Une loge de luxe qui va avoir moins de gens, disons 25, mais qui devront payer 5 000$ pour y être. Ben, à place de faire 10 000$, vous venez de faire 125 000$. C'est le fun, hein? Pour les auditeurs à la maison, ma langue vient de dérouler par terre, les yeux me sont sortis de la tête et tout le sang de mon corps se dirige vers mon pénis. Holy mama, ça c'est du profit. Et ça c'est du profit aux dépens des vrais amateurs de sport qui, encore une fois, en paieront le prix. Désormais, ils ont moins de place pour eux dans leur stade et donc, en plus de ça, ça va augmenter le prix moyen des billets. Parce que, simple question d'offre et demande, il y a moins de place dans le stade, il y a autant de fans, donc les prix augmentent pour les billets de monsieur et madame tout le monde. Ah, ça, c'est super. Ça date, ça touche plus les États-Unis que nous au Québec, mais ça, c'est pour l'instant. Zach, tu viens tout juste de parler de la possibilité du nouveau stade de tennis. Et voici ce que Eno Polo, chef de la direction de l'Association de tennis professionnel, avait à dire. Je le cite. « Les spectateurs d'aujourd'hui viennent beaucoup voir le tennis, mais c'est aussi une expérience. C'est une expérience culinaire. Il y a de l'animation avant. On s'attend à plus que s'asseoir dans une chaise pas très confortable et simplement regarder un match. Les attentes sont plus élevées en matière d'expérience. » Ensuite de ça, M. Polo n'a pas fini, mais non. Il va aussi vanter le tournoi de Madrid, tournoi qui n'attire pas le plus de spectateurs, mais qui engendre le plus de profits de tout le circuit grâce à ses billets de luxe. Donc, peut-être que ça s'en vient à Montréal. Moi, je vous dis, pour 2027, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite que nos stades arrêtent de regarder leur ligne et qu'on recommence à penser aux gens qui aiment le sport pour de vrai.
Man, c'est tellement enrageant que, mais enrichissant que tu parles de ça parce que ça fait tellement écho à ce dont on parlait, parce que Camille a dit de genre... On va privatiser l'accès à des espaces en empiétant sur la démocratisation des espaces gratuits puis communs, genre.
100%. Moi, pour les sports, Zachary puis moi, on regarde en ce moment pour aller voir les Bills de Buffalo, se faire un road trip de boys, d'aller les voir en janvier. Les prix sont absurdes. Nous autres, on va voir le pire match où la date n'est même pas encore annoncée techniquement parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'il va être joué contre la pire équipe de la Ligue. Ça, c'est un match. Tous les autres matchs, le prix d'entrée pour une vue obstruée en US, ça commence à 450 $ US.
C'est horrible. Moi, c'est pour ça que j'aime le baseball. Okay?
Ça coûte
parce
rien,
que
le baseball.
Ça coûte rien. Moi, ça m'a coûté 10$ US aller voir un match.
Ça dure 10 heures. Là. Ils font tout le cash sur le hot dog.
Oui, mais ça passe vite. mais c'est les hot dogs les plus chers à Chicago.
C'est que c'est des stades de baseball. Ce qui est le fun, c'est que c'est des stades énormes.
Ouais, c'est énorme.
Parce que lorsque c'est les grands matchs, ça se remplit.
Ouais.
Mais il y a 162 matchs dans une saison de baseball. Fait qu'il y a des matchs qui vont être un mardi 14h. Le monde n'iront pas.
Non.
Fait que, question d'offre et demande, les billets coûtent rien du tout. Le baseball est un sport beaucoup plus accessible.
Ouais, c'est un sport de pauvres. Des pauvres.
Mais c'est censé... Je sais pas, man. Genre... Ça me gosse.
Moi aussi, j'en reviens pas, puis c'est quelque chose qu'on accepte complètement socialement, genre...
Puis qu'on subventionne.
Comme le petit Slaf, là, il va convaincre les gens d'aller voir le Canadien, même si les billets sont comme 2 000 $, on veut le voir.
Ben, j'essaie de. Moi, ça fait longtemps que je suis pas allé voir un match.
Je suis jamais allé voir un match des Canadiens, ça coûtait trop cher.
Moi, je suis allé une fois à l'université dans le temps que tu pouvais payer ton billet 42$. T'étais la dernière rangée en haut, puis ça incluait une pinte de bière.
Ça, c'était,
ça, c'était une aubaine 2017.
C'était vraiment
that was the year.
J'en avais profité aussi. Mais en ce moment, je regarde pour acheter des billets contre mon équipe de toujours, les Penguins Pittsburgh, du Canadien de Montréal.
Oui.
Puis c'est la même chose. C'est comme, t'es-tu dente de t'endetter pour le restant de tes vies pour voir correct? C'est comme, ben. Ouais, je sais pas trop.
Pas tant.
Tout le sport, tu sais, mettons, on pourrait parler aussi de juste la marchandise de sport qu'ils font. Tu sais, mettons, ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Mais Fanatics, qui est la compagnie qui a commencé vraiment à reprendre beaucoup des uniformes. Fait que, mettons, avant, c'était peut-être Reebok, Nike, Adidas. Là, pour l'instant, en ce moment, dans le hockey, c'est Fanatics. Ils vont être engagés par les ligues sportives parce que leur produit va coûter vraiment moins cher. Il est plus cheap, mais ils vont garder le même prix. Fait que désormais, mettons, tu vas payer... Mettons, je suis ici là, au Québec, là, je l'ai fait. Là, j'ai un jersey d'hockey là, récemment. Mm. C'est un jersey des Penguins de Pittsburgh. Okay? Le jersey me coûte 350$.
Ouais.
Et honnêtement, je pense qu'il a coûté plus ou moins 350 cents à faire. C'est comme, c'est débile. C'est de la piètre qualité. Puis c'est comme, ben maintenant, c'est la seule option. C'est ça où tu payes 900$ à la place pour avoir un vrai de vrai bon jersey.
Gosh.
Puis nous autres, tout ce qu'on peut dire, c'est « Yes, super, merci, j'ai hâte de vous écouter samedi soir. »
Oui, vraiment. Parce que, c'est super.
Mais merci, Alex.
Ça fait plaisir. Écoutez, sur cette belle note positive, on va continuer sur le De quoi de fun avec la chronique de Camille.
Feu de forêt!
Chronique politique.
Vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
Fait que comme ça, Camille, nous, cette semaine, on a la chance d'avoir un sujet super léger de ta part.
Ah oui. Hey, moi, les gars, là, je suis épuisée. Pas épuisé de type « j'ai labouré mon champ, j'ai les chines qui barrachent et j'espère que cette année ne sera pas une autre disette » comme mes ancêtres ont pu le vivre.
Oh oui.
Non, c'est plus un épuisement de voir. Genre, voir sur mon téléphone les feux de forêt tous les jours et dans ma tête, cette semaine, je ne vais pas vous le cacher, la phrase « vous n'êtes pas écœuré de mourir, bande de caves » du poète Claude Péloquin qui a été mis en sculpture par Jordi Bonnet, en tout cas.
Je vous le dis,
vous irez faire des recherches. Arrêtez pas de se répéter. J'en peux plus de voir les feux tout ravager. Cette semaine, la Colombie-Britannique a annoncé l'état d'urgence dans sa province. Puis comme dirait ma mère, c'est pas ça leur climat. J'ai parlé à du monde qui viennent de là, puis c'est pas ça le climat. D'habitude, c'est plus humide que ça. Plus de 20 000 personnes ont été évacuées de leur lieu de vie pour éviter d'être la proie des flammes. Mais comme littéralement, je lis...
C'est terrible.
Plus tôt dans l'été, on voyait partir en flamme la communauté de Collins dans le nord-est de l'Ontario. Tu sais là, la photo super angoissante qui est comme un point de vue d'une fuite en bateau.
Ah oui,
puis
oui.
L'île prend en feu au loin. Mm-hmm. Tu vois littéralement la fin de ton lieu de vie, là où tu as grandi, là où tu habites, ta famille, ta maison est la proie des flammes. Toutes les arbres que tu as déjà connus, tu les connaîtras plus. Puis dis de même, ça sonne ouais. Mais quand tu aimes les arbres... Puis les voir disparaître comme ça dans un événement aussi tragique.
Ce reel-là est infernal. C'est comme, on est en enfer. Genre, c'est ça l'enfer.
Ça, puis les...
Ça n'a pas de bon sens.
Ah oh, oui. T'sais, nous, on regarde ça, puis on se dit, au moins, c'est pas chez nous, j'imagine. Tu essaies de trouver... mais ça pourrait. Yes. Ça pourrait, hein?
Simon... Ils respectent pas les frontières, les feux?
Non. Ah! Non, c'est drôle. Ils respectent pas le traité de Westphalie, les feux. Non, yes. Ça connaît pas ça.
T'es en train de me dire que le bois ontarien, quand il brûle, il peut brûler le bois québécois?
Ouais.
Maudite merde.
Le feu, c'est pas raciste.
Non!
C'est la seule chose positive.
Un référendum, ça change rien du tout, ça? Sur les feux de forêt?
Ah!
Petite calice.
Doug Ford, lui, il regarde ça puis il se dit... ben je vais investir dans la je vais pas investir dans la prévention là puis sur mon Instagram m'a parlé de la route entre tu sais la Hazel McKellion Line là une route qui relie Mississauga à Peel Region. Wow. Oh my God. Ah puis les avez-vous vu les images du train entouré de flammes? Il n'y a pas un traître film d'horreur qui a pensé à nous mettre ça dans un film avant cet été. A24 est en retard! Hey, ces images-là étaient à glacer le sang. Les vitres du train de la commande, c'est juste du orange flash. Oh. Je suis vraiment surprise d'entendre aucun des gars pris dans cette cabine-là pleurer. En même temps, on y repassera dans l'expression des émotions et dans la masculinité. Mais c'était Horrible. Et on voit tout ça cet été comme ça. Je suis rendue une vraie abonnée à la page « Suivez la progression des feux de forêt » de Radio-Canada. Mmh. Super beau. Board pour l'angoisse. Il y en a qui suivent la bourse sur leurs ordines. Moi, je suis la fin du monde. Mais je suis soulagée de savoir que dans les 7 derniers jours, il y a 24 feux de moins au Canada. Je suis comme, ouh, un peu de répit. Mais ça veut dire quoi quand il y en a 466 qui sont non maîtrisés? Il n'y a pas juste ici que ça brûle, il y a aussi toute l'Europe. Là. Il y a en France, c'est leur pire été de toute la vie. Les avez-vous vus, les chevaux là, qui galopent en pleine ville pour fuir les flammes? Une écurie de biscarosses s'est vue sans... je vais le nommer, je vais l'adresser. C'est vu sans aucune autre solution pour sauver ces bêtes que de faire confiance à leur instinct en les libérant. Les chevaux se sont tous ramassés sur une plage plus loin, mais tu les vois galoper littéralement, suivre un instinct. Et oui, moi aussi, ça m'a marqué une ville qui s'appelle Biscarros. Il y a au moins de ça de bon dans mon été. Biscarros, yes. Hey, tricalèche, tant qu'à y être. Quadruple sulky, quintuple chariot. Bon, vous aurez compris le cirque. Mon cerveau est un feu roulant.
Chantal m'a dit qu'il y avait une écurie à Biscarros. Oh, lisse de vie.
Oh, wow. Mais si j'étais cato, en ce moment, je serais convaincue que c'est les cavaliers de l'apocalypse qui se font leur arrivée. Ah, t'sais? Oui. Des chevaux comme ça, le ciel noir.
Ah, non.
Mais non, c'est pas ça que ça fait des sabots. Mais voilà, mais étant donné que je suis pas cato, j'ai juste été triste. Puis en Europe, ouais, ça brûle un peu partout. Partout, c'est super sec. Hier, je revenais de Val-d'Or, je regardais par la fenêtre de l'autobus, puis je me disais, waouh, il y a tellement d'eau, mais c'est pas assez. Je suis tannée que les feux brûlent les communautés autochtones. Je suis tannée que les feux brûlent les animaux, puis je suis tannée que le monde ait peur de se retrouver sans logis à cause des flammes. J'aimerais être une espèce de sorcière pour dire aux flammes, crois brûler, être genre la femme qui murmurait à l'oreille des flammes. Alors voici quelques idées de trucs à brûler. Une parcelle de terrain de chaque politicien qui, dans les 6 derniers mois, a dit ne pas être contre l'exploitation des gaz de schiste. J'aimerais ça, là, qu'ils vivent comme une petite peur, hein, ouais. Tu sais, que leur jardin brûle, là, puis comme, oh my God, c'est là que je plantais mes tomates. Puis que ça leur fasse un petit serrement d'un fesse, là, qui fait qu'ils vont pas avoir envie d'investir dans les énergies fossiles. Je salue Christine Fréchette, Éric Duhem et Charles Milliard. J'aimerais ça qu'il y ait peur. Ouais. En même temps, l'an dernier, avec les feux à LA qui ont touché du monde super riche, j'étais comme « Bon, enfin, une catastrophe induite par les dérèglements climatiques qui touchent des riches. Ouais. Ils vont apprendre leur leçon. » Ah, on n'a rien appris. On a juste reçu des remarques miso parce que la chef des
corps
pompiers, c'était une femme.
Tu savais de ça?
Non,
ouais, il était genre la cause des feux, c'est parce que la chef des pompiers, elle est une femme.
Ah, ouais.
Ils sont pas capables de.
Moi, la façon corps, que j'ai vu passer, c'est que durant les Oscars, il y a un moment pour remercier les policiers. Pas les policiers, les pompiers.
Les pompiers.
Ben, sûrement les policiers aussi.
Sûrement les policiers.
Bravo. Bravo, les gars. On pourrait aussi brûler tous les documents sur le troisième lien. Il faudrait genre recommencer à zéro, puis on repasserait une espèce d'autre 3 ans à reprendre cette entreprise zinzin-là. Ça repousserait un peu cette damnée construction. Ou ben non, on pourrait brûler genre les statues de la station Monk.
Ouais, ça, t'es arrivé en enfer, là. Ça, tu le sais.
Ah oui, c'est des estis de bonhommes allumés du démon. Ouais.
Puis ils travaillent, je pense.
Oui,
ils sont en train de pelleter.
Ils tiennent une pelle, puis l'autre, il y a une pioche, là, une immense pioche.
Mais tu sais, je croyais pas Richard Martineau quand il disait que le communisme et les marxistes envahissaient Montréal. Ah non, c'est Paul Sépia Plamondon, tu sais, il disait qu'il y avait des marxistes qui envahissaient Radio-Can. Mais avec ces statues-là, peut-être qu'on est sous l'Union soviétique. Là, genre,
oui.
Des espèces de...
Je suis allé googler voir c'est quoi.
C'est terrifiant, hein?
Ça vaut la peine de googler.
On n'en parle pas assez souvent. Bon. Ville est mort, il y a de la faute pauvreté, mais avant tout, il y a ces bonhommes allumettes-là.
Ils sont tellement grands.
Ah ouais.
Oui, c'est Filiforme. Immense. Quand tu arrives à Monk, tu peux pas être autrement que terrifié.
Shout out.
Puis ils tiennent une pelle, mais qu'est-ce qu'ils veulent me faire? Genre, on dirait qu'ils vont enterrer mon corps, je sais pas, c'est quoi? J'ai l'impression que les statuettes de la station Monk, c'est la seconde avant de mourir.
Oh ouais,
c'est ça que je vais voir.
C'est
la dernière chose que je vais voir. Ah, on pourrait peut-être aussi brûler une coupe de stationnement, puis on pourrait faire plus de jardins communautaires. Ça, c'était éditorial. Une chance qu'on va pouvoir parler avec les animaux grâce à l'intelligence artificielle.
Yes!
Yes, j'ai vu ça dans la presse cette semaine. Hey, je sais tellement pas ce qu'ils nous diraient, les animaux. sûrement pas qu'on est comme la plus conne des espèces, mais au moins, nous, on sait écrire.
Nous, on a un pouce l'autre bord de nos quatre doigts.
Le
essayez
pouce
de battre ça, bande de cons. Avec ça, on a brûlé.
On signe des trucs qui disent oui à des projets qui détruisent l'environnement.
Qu'est-ce qu'on est débile dans la tête.
Première année d'une série de longues décennies de températures extrêmes. Hein?
Moi, je vais être franc avec toi, Camille, par exemple. Toute ta chronique était bonne, mais à partir de Bicaros, t'as décroché. Je pense que je suis encore à Biscarosville.
Biscarosville. non, c'est les feux de forêt, c'est que moi, il va falloir qu'une ville importante pour les politiciens brûle pour qu'ils soient genre peut-être faudrait qu'on fasse quelque chose.
Ben même là, c'est quoi la ville? C'est quoi, c'est Tel Aviv?
Oh my god.
Ouais, ben là tu vois Bordeaux là en France. Je pense qu'en France ils vont être obligés d'en parler
les
aux présidentielles.
Bois, le bois, la Gironde, des bois super importants là, qui appartenaient à des rois là, évidemment les rois. Imagine les autres s'ils voyaient ça aujourd'hui, ils se diraient sûrement c'est la faute d'un paysan pauvre. Là.
Ou des juifs, ils étaient comme fucking antisémites à l'époque. Ben ça existe pas encore l'antisémitisme, mais mon point c'est que il aurait sûrement brûlé des femmes ou puis des juifs puis genre des paysans. Là.
Ça aurait fait la job.
Mais c'était proche de Paris, les feux, là.
Oui, oui, ben c'était dans le sud-ouest, là.
Il y en a eu dans le nord Biscarros.
À Biscarros, dans le nord, exact.
Oui.
Ah, terrifiant.
Ouais. Sur ce, on va faire sur ce beau sujet que tu nous as bien... Non, je pense que tu nous l'as bien rendu, le Camille, honnêtement.
Merci.
Je pensais à être plus déprimé à la fin que ce que je l'étais.
Il faut rire, hein? C'est ce qui nous reste.
C'est tout ce qui nous reste, malheureusement. On va faire un rapide tour de table si jamais il y a des trucs qui se passent prochainement, qu'on doit rester à l'affût, ou si tout simplement vous avez des recommandations, lectures, qu'est-ce que vous avez lu, qu'est-ce que vous avez regardé, qu'est-ce que vous avez écouté. Zachary, je sais pas si tu avais des petits trucs pour nous.
Oui, moi je vous conseille la semaine prochaine d'aller au cinéma. Je suis dans mon cinéma era. En ce moment, je pense que je suis de retour à aller voir des films. Puis cet été, je trouve 2026, je sais pas si c'est juste parce que je commence à aller au cinéma. Man, on a des films, ça n'a pas de sens. Mm-hmm. Il y a tellement des films, des bangers qui sortent, ça n'a pas de bon sens. D'abord, je voudrais vous dire, allez voir, évidemment, là, allez voir les films que tout le monde va voir cet été, mais à part The Odyssey et tout ça, moi, je suis allé voir The Invite, je sais que tu l'as vu toi aussi, Alex. Tu l'as-tu vu, Camille? J'ai trouvé ça fucking bon. Peut-être le meilleur rôle de Seth Rogen. Ouais.
Il est incroyable.
Il est incroyable, mais tout le cast est fascinant, c'est drôle, c'est vraiment drôle. Puis la semaine 100%. Prochaine, ce que je vous propose, avant que tu rebondisses là-dessus, Alex, c'est d'aller voir Tony. La biographie, le biopic de Anthony Bourdain. Ça a de l'air magnifique.
Oui, avec Soussa.
Dominique Soussa, c'est lui qui avait joué dans The
Holdovers.
Je l'aime tellement, ce gars-là.
Puis Antonio Banderas.
Ouais, 100%.
J'adore Antonio Banderas. Depuis qu'il a fait la paire dans les Spy Kids, je suis comme...
Ce que j'allais faire du pouce, c'est The Invite. Et il est sorti hier en digital. Donc, c'est possible de le trouver. Ce que je suggère aux gens, c'est d'y aller en salle. Moi, j'étais allé un mardi. C'était salle comble.
Magnifique.
Et honnêtement, être dans une salle de cinéma, que
ça rit,
c'est une expérience
banger.
Incroyable.
Moi, c'est pour ça que je vais au cinéma, puis moi, mon cinéma préféré, c'est Cinéma du Parc.
Ouais, c'est un bon.
C'est 11$.
Ouais.
Puis t'as l'expérience parfaite, c'est beau, il y a du velours.
Ouais, je suis allé, on était tellement bien assis. On avait un genre de... Bro, j'avais genre 1 mètre quasiment entre moi puis Clem, puis c'était comme quasiment une table. On avait quasiment une table entre nos deux sièges. J'étais genre, depuis quand? C'est long, mais...
de fuck? T'avais-tu des lectures ou je sais que t'avais fini un livre sur l'intelligence artificielle?
Ouais, mais je l'ai proposé la semaine dans le dernier épisode. Okay. Fait que mais j'ai peut-être une autre proposition que je vous ferais. C'est un compte sur Instagram. Ça s'appelle Paul Will Stout. C'est un gars qui s'appelle Paul Will Stout.
Mm-hmm.
Puis il fait du contenu sur c'est un spécialiste en design urbain. Probablement qu'il a fait une formation genre en architecture ou en design de l'environnement, mais il fait des courtes vidéos de genre 2-3 minutes où il parle de comme « Ah, pourquoi cette image-là te donne plus le goût de marcher dans cette rue-là, mais pas dans cette rue-là? » Puis là, il explique toute la théorie de genre « Pourquoi, quand on est à côté d'une fontaine puis il y a des marches, on veut toujours s'asseoir contre quelque chose qui est plein en arrière. » Ça veut dire que quand tu vas t'asseoir dans une place publique, tu vas toujours t'asseoir devant quelque chose qui te protège et non au plein milieu. Pourquoi? C'est comme...
Intéressant.
Il parle de toutes les manières de transformer la ville pour la rendre plus adéquate pour l'expérience humaine. Puis je trouve ça, j'ai trouvé ça magnifique.
Très le fun. De mon côté, si je peux me permettre, je rebondis cinéma. Pour les fans de ce film-là, La La Land revient en salle la semaine prochaine, pour une semaine seulement. Ouais.
Quel cinéma qui fait ça?
C'est dans les cinémas, je pense, Cinéplex seulement. Moi, la place que j'ai trouvée, j'y vais mardi, tout seul, au cinéma Forum à Montréal. Puis aussi The End of Oak Street, qui, j'avais vu la bande-annonce, ça avait l'air
Je l'ai vu aujourd'hui, cette bande-annonce-là.
Je trouvais que la bande-annonce avait l'air correcte. Apparemment, c'est un good time au cinéma. C'est un film avec Ewan McGregor et Anna Tawai,
la ghost.
Leur rue se retrouve avec des dinosaures. On ne sait pas si la rue a voyagé ou si les dinosaures ont voyagé.
Je trouvais que ça avait l'air d'un navire.
Moi aussi, j'étais sûr que ça allait être
Toutes les critiques sont comme, ce film-là est tellement le fun, what the fuck, c'est comme la plus grande surprise de l'année.
Oh, t'attendais que ça soit nul.
Toujours le fun quand les surprises sont positives. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que je vous donne des nouvelles de ces deux films-là. Vous serez content d'apprendre que demain, ça va être la finale de l'Omnium Banque Nationale.
C'est qui contre qui? Parce qu'on n'a pas victoire.
Les demi-finales, non, exactement. Les demi-finales sont jouées aujourd'hui, autant les hommes que les femmes. Les hommes, en ce moment, le favori est Ben Shelton, cinquième tête de série, qui avait remporté l'année passée le tournoi à Toronto. Chez les femmes, je vous dirais que les têtes de série sont là et sont bonnes. Mon argent serait sur Coco Gauff, l'américaine.
Oui. Est-ce que Mboko s'est rendu loin à Toronto?
Non. La Canadienne qui s'est rendue le plus loin, c'est Leila Fernandez.
Ouais.
Qui a perdu en huitième de finale contre Naomi Osaka, qui est quand même.
Ouais, ouais. Mais oui, que Mboko avait battu à Montréal.
En finale.
Est-ce qu'elle est encore haut placée, Mboko?
Mboko, en ce moment, c'est. Ça va être une discussion pour une autre fois, là, système de points, comment ça fonctionne. En ce moment, elle est placée. Je te dirais, elle est dans le top 20. Je sais qu'elle a été dans le top 10 cette année à un certain moment. Okay. Mais lorsque tu commences ta première saison vraiment de vrai tennis, là, pour de vrai, tu gagnes beaucoup de points.
Okay.
Après ça, c'est les garder qui va être difficile.
Je comprends.
Ça ressemble à ça. Sinon, dans les livres, si jamais vous le trouvez, moi j'ai trouvé en friperie un livre de 1960 sur les 7 meilleurs joueurs de la Ligue nationale de l'histoire de la presse.
C'est super.
Ouais, si vous le trouvez, je vous le conseille. C'est drôle en tabarnak. Ça n'a pas de bon sens.
Fait qu'on s'en va aux Renaissance Librairie.
Exactement.
Là,
je ne pourrais même pas dire le nom de l'auteur et le nom du livre. Je pense que c'est mes plus grands joueurs de hockey. C'est Marcel Bonin, évidemment. Ben oui, ce gars-là, I guess. Camille, pour finir.
Moi, ces temps-ci, dernièrement, j'ai lu La valse aux adieux de Milan Kundera, qui nous rappelle que les fuckboys traversent le temps et l'espace géographique. Non, mais ça faisait du bien. Et ensuite, je lis en fait en ce moment Bonheur d'occasion. Mm. Ou devrais-je dire Je le dévore de Gabriel Leroy. Moi, je ne l'avais jamais lu. Je sais pas où c'est. Cégep, on a pris des détours, on m'a fait lire autre chose. Puis. Non, mais c'est bon. Si vous êtes intéressé par l'histoire de la classe ouvrière à Montréal, de Saint-Henri, ça va mal. Puis encore une fois, il y a des fuckboys. Asti, Jean Lévesque! Ce gars-là!
Un fuckboy qui s'appelle Jean Lévesque, c'est drôle en tabarnak.
Ça, j'aime ça aussi. Parenthèse, je lisais un vieux livre des années 70 récemment. Puis il y a des enfants, puis c'est comme, comment je vais les appeler? Avec des noms super récents. Linda, puis genre Jacques. C'est comme, c'était des noms de fuckboys, de jeunes, tu sais, petits bonhommes. C'est comme,
le petit bum.
Incroyable.
Ouais. Puis, je suis allée voir The Odyssey.
Oui.
T'as-tu aimé ça?
Non.
T'as pas aimé ça?
Mais, je veux dire, j'ai passé un beau moment cinématographique, mais honnêtement, la représentation de Circé, ça me déçoit.
Ah, yo, moi aussi.
Parce qu'elle est censée être puissante, cette femme-là, mais aussi également, genre, jeune, jolie, vengeresse.
Ah, tu parles de Circé. Ok, moi,
je parlais de
Calypso.
On en parlera. On en...
Calypso, c'est comme. Elle peut pas être botoxée, bro. Ça veut pas être Charlize Theron.
Non, non, non. Ça serait long, mais si vous voulez en parler, je suis ambivalente.
100%. Ben écoutez, merci tout le monde pour l'écoute du troisième épisode de C'est ça qui est ça. J'aimerais dire, c'était ça qui était ça. Nous autres, on se revoit dans environ 2 semaines. Soyez à l'affût. Et gros bisous. On vous aime.
Gros bisous.
On vous aime.